Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro de Mélomanie, le 140e pour votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Si vous êtes un fidèle de l'émission et que vous avez écouté les deux précédents numéros, vous savez déjà qu'en l'absence d'actualité musicale, nous avons entamé un cycle consacré à Mozart, avec deux premiers volets dédiés à la jeunesse du compositeur et à ses concertos pour piano. Nous allons faire aujourd'hui une petite pause dans cette série d'émissions, puisqu'en fait, une actualité musicale, il y en a tout de même une, très réduite certes et sous la forme de concerts sans public, mais diffusée en direct sur les réseaux sociaux, Facebook ou YouTube. Quelques-uns ont eu lieu ces dernières semaines et ils ont été très intéressants, vraiment de grande qualité. Ils sont d'ailleurs toujours en ligne, on peut les revoir et les réécouter. C'est donc sur ces événements récents que nous allons revenir en compagnie de mon plus fidèle complice à Mélomanie, l'ami Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. C'est parti pour un retour arrière qui vaut le détour, croyez-moi.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à vous aussi Serge, heureux de vous retrouver dans ce studio. On sait que l'Orchestre National du Capitole diffuse ses concerts en direct de la Lograin depuis plusieurs mois sur sa page Facebook ou sa chaîne YouTube. Ça a encore été le cas les 30 janvier et 6 février, nous allons y revenir. Mais juste avant, une autre saison toulousaine s'est elle aussi lancée dans la diffusion d'un de ses concerts sur sa page Facebook. Il s'agit de Toulouse Guitare, la saison fondée par le guitariste Thibaut Garcia avec ses parents Jules et Gaël. Une belle programmation qui a d'emblée trouvé son public parmi les nombreux amateurs de guitare classique que compte la Ville Rose. Et le 29 janvier, ils ont accueilli à Saint-Pierre-des-Cuisines le Quatuor Eclis, un quatuor de guitare, ce qui n'est pas commun en soi. Et le concert qu'ils ont donné ce soir-là ne l'était pas non plus. Concert organisé, précisons-le, en partenariat avec France Musique et avec l'Institut supérieur de réalisation audiovisuelle. Avant que se produise le Quatuor Eclis, il y a eu, selon la coutume bien établie de Toulouse Guitare, une première partie avec un jeune guitariste issu du Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse qui était le jeune talent invité ce soir-là, Serge.
Eh bien, ça a été une belle découverte. Son nom, c'est Virgile Barthes. Et donc, vraiment, une fois de plus, cette tradition qu'a établie Thibaut Garcia pour chaque concert, d'entendre d'abord un jeune, quelquefois très jeune musicien, c'était le cas là, et vraiment à remercier et à féliciter. C'est une très belle tradition qui a été établie. Et donc, on a découvert ce jeune guitariste, Virgile Barthes, qu'on avait déjà entendu pour la présentation de la saison de guitare. Effectivement, Thibaut Garcia et d'autres avaient joué avec lui. Et donc, on l'a découvert tout seul cette fois. Vraiment, je crois qu'on a découvert un vrai musicien, pas simplement un guitariste qui tricote bien sur les cordes de la guitare.
Les cordes de la guitare.
Mais beaucoup mieux que ça, vraiment un musicien. Moi, j'ai beaucoup apprécié son jeu à la fois intérieur et naturel, vraiment très bien.
17 ans et demi, tout jeune, il aura 18 ans en juin prochain et il a joué un programme, là aussi, assez audacieux, je dois dire. Il n'a pas choisi la facilité, alors vous pouvez peut-être nous rappeler quels étaient les compositeurs et les œuvres au programme de cette première partie. Il y en a eu trois.
Trois œuvres, alors un peu à l'image des programmes établis par Thibaut Garcia, c'est-à-dire très ouverts. Ça commençait par le prélude et le presto, BWV 995, de Jean-Sébastien Bach, donc grand classique, grand baroque, disons. Puis ensuite, il a joué une pièce d'un compositeur qu'on peut qualifier de contemporain. Il est mort en 1971. Un compositeur britannique du nom d'Alan Rothstone, que je ne connaissais pas.
Ce soir-là, moi. Voilà, inconnu pour moi.
Voilà, une pièce qui s'appelle Elegy. Et il a terminé, alors par un nom plus connu, surtout dans le monde de la guitare, une pièce de Mauro Giuliani, grande ouverture. Donc, trois pièces très différentes les unes des autres, et l'une de ses grandes qualités, c'est de s'adapter parfaitement au style de chacune de ces trois œuvres.
Oui, déjà une grande maîtrise et une facilité à passer d'un univers à l'autre, parce que ce sont quand même des compositeurs très différents.
Complètement différents. Alors, la richesse polyphonique de l'œuvre de Bach, eh bien, elle bénéficiait de la lisibilité de son jeu, d'un équilibre qu'il ménage à la fois entre liberté et rigueur. Et vraiment, c'était très impressionnant pour un jeune musicien de cet âge, qui débute.
Oui, je pense que c'était sans doute son premier grand concert.
Peut-être, oui.
De ce genre-là, en tout cas. Hein. Alors, malheureusement, sans public, ce qui est dommage, mais sans public, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont regardé sur la page Facebook de Toulouse Guitare, qui ont assisté à ce concert. Et il a bien mérité qu'on l'écoute de nouveau dans cette émission, Virgil Barthe, parce qu'il a du talent et parce qu'il a fait une jolie prestation à Saint-Pierre-des-Cuisines le 29 janvier. Le voici qui interprète un extrait de la grande ouverture de Mauro Giuliani. La grande ouverture de Mauro Giuliani, interprétée par le jeune guitariste Virgil Barthe lors de la première partie du récent concert de Toulouse Guitare diffusé en direct sur Facebook le 29 janvier depuis l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines. Virgil Barthe, un talent à suivre qu'on espère vite revoir dans les salles toulousaines. Juste après sa prestation, se sont présentés sur scène les guitaristes du Quatuor Eclis. Avant de parler du programme qu'ils ont joué, on va tout de même indiquer leur nom. Serge, comment s'appellent ces quatre musiciens ?
Ah voilà, les quatre guitaristes qui forment ce quatuor, fondé en 2012 d'ailleurs, sont Gabriel Bianco, Arcaïd Chambonnet, Pierre Lelièvre et Benjamin Valette.
Et ils ont joué un programme, alors là, évidemment plus long que celui de la première partie, essentiellement constitué, ou même je pense constitué seulement d'ailleurs, d'arrangements, de transcriptions pour quatre guitares, de classiques du répertoire, pour la plupart très connus.
Oui, et d'un répertoire lié à l'Espagne, ou plus exactement centré sur l'Espagne, puisque ce programme a exploré un peu l'image extérieure autant qu'intérieure de l'Espagne, puisqu'il y avait des pièces de compositeurs espagnols, mais également de compositeurs non espagnols, notamment italiens et français.
Oui, alors l'italien, lui, c'est un peu particulier parce que c'est Luigi Boccherini qui a vécu très longtemps en Espagne,
exactement.
À Madrid.
Oui, c'est le plus italien des compositeurs espagnols.
Ou le plus espagnol des compositeurs italiens, plutôt.
Voilà, et donc ils ont donné comme ouverture de leur programme le Fandango du Quintet pour cordes et guitares numéro 4. Alors, la guitare, bon, elle était déjà là, et puis ils ont donc adapté à leur quatuor de guitare la pièce, une pièce très belle, très effervescente, très... Bon, comme on peut imaginer un fandango, une vraie danse, hein, par moments presque frénétique. Donc vraiment de la très belle musique et magnifiquement jouée. Il faut vraiment célébrer la cohésion et la complicité de ces quatre artistes. Hein, et parce qu'il n'y en a pas un qui domine les autres. Il y a un équilibre parfait entre les quatre. On voit que les échanges de regards...
Oui, il y a une complicité.
Personne
n'essaye de tirer la couverture à soi.
Absolument. D'ailleurs, même pour la présentation, chaque musicien à son tour a présenté les œuvres.
Oui, effectivement, ils ont présenté toutes les œuvres, et assez longuement d'ailleurs, précisément.
Absolument.
Et chacun leur tour.
Oui, chacun leur tour. Donc vraiment, c'est un quatuor extrêmement homogène.
Ensuite, donc, on a continué en Espagne, mais avec un musicien français cette fois-ci.
Voilà, alors le sujet des pièces est espagnol, mais la musique est française quand même. Puisque tout d'abord, on a entendu de Claude Debussy, La soirée d'Engrenade, qui est l'une des pièces des estampes. Bon, mais là aussi, évidemment, adaptée au quatuor. Et puis ensuite, une pièce de Maurice Ravel, alors qu'on attendait presque. Hein.
Oui,
Alborada del Gracioso.
C'était un passage obligé. Hein.
Ah ouais, oui, ça c'est sûr. Donc l'Aubade du Bouffon, tel que Ravel voyait l'Espagne.
Oui, mais c'est
Ravel
sa vision de l'Espagne. Ça,
était tout proche de l'Espagne.
Oui, il a grandi au Pays Basque, rappelons-le.
Au Pays Basque, alors que Debussy, je crois, n'a jamais mis les pieds
Il n'a jamais mis les... Non, jamais.
Donc,
jamais. Non.
Oui, mais de nombreux musiciens
espagnols se réclament de Debussy ont été très influencés par Debussy.
La musique de Debussy est un magnifique reflet de l'Espagne.
Oui.
Donc, c'est un beau compliment de la part.
Effectivement, Debussy et Ravel ont beaucoup influencé leurs contemporains espagnols.
Bien sûr. Donc, ça, c'était les trois pièces de compositeurs non espagnols.
Et puis là, alors là, on a terminé avec les deux, je pense, grands compositeurs espagnols les plus connus chez nous et même chez eux. Donc, Isaac Albéniz avec, c'était inévitable aussi, Asturias.
Asturias. Alors, j'ai trouvé l'idée excellente. On sait qu'Asturias est un peu la pièce fétiche de Thibaut Garcia.
Oui.
Il la joue souvent magnifiquement d'ailleurs, hein, c'est vraiment un modèle. Et là on l'a entendu à quatre guitares, hein, c'était tout à fait impressionnant. Très bien arrangé pour le quatuor.
Hein. On rappellera que ce n'est pas le titre originel. Hein. Isaac Albéniz n'avait pas donné ce titre, c'est la suite espagnole numéro 1 plus 47, c'est ça.
C'est
le
un
titre.
Des mouvements.
Et c'est plus tard
de la suite,
que quelqu'un a donné ce nom d'Asturias.
Et d'ailleurs, ce que nous a dit le musicien qui présentait, c'est que ce n'est probablement pas lié à la musique des Asturies, mais peut-être ailleurs, en Espagne.
Alors, il y a une autre pièce d'Albéniz.
Ah oui, une pièce tirée du grand cycle Iberia, cycle pour piano, à l'origine,
magnifique.
Qui est un magnifique cycle. Et là, c'est El Corpus Christi en Sevilla. Et c'est un peu une illustration du défilé qui a lieu lors de cette fête du corps du Christ, donc à Séville. Là aussi, des couleurs magnifiques, une très très belle exécution.
Il manquait à la fête Manuel de Falla,
et c'est
lui qui a clôturé le concert. Il y a eu Abyss, on va en parler. Et c'était la danse finale du tricorne.
Oui,
classique de la musique
classique
espagnole.
Et puis il fallait finir par la fête, hein, donc c'était tout à fait réjouissant d'entendre ce final du tricorne de Manuel de Falla.
Alors donc, ils ont donné un bis.
Et oui, alors un bis un peu mystérieux. Donc j'avoue ne pas connaître le nom du compositeur. Alors la seule chose qu'ils nous ont dite, c'est que c'est sur une chanson ou une poésie dont voici les termes. « Ah, que mon cœur se serre comme un bouquet d'œillets ». Et j'avoue, malgré mes recherches, ne pas avoir trouvé quel était le compositeur de la musique qui illustrait cette poésie. Voilà.
Ni l'auteur du poème.
Ni l'auteur du poème.
Eh bien, ça restera mystérieux, mais bon, c'est pas très grave.
Si un auditeur le connaît...
Ah bah oui, qu'il n'hésite pas à nous écrire.
Oui, absolument.
Mais il faut qu'il y ait du mystère aussi dans les concerts, c'est très bien. Et comme ça nous oblige à chercher en plus. Alors, pour vous donner un aperçu de ce concert, voici le début d'Alborada del Gracioso de Maurice Ravel, dans la version transcrite pour 4 guitares par le Quatuor Eclis, tel qu'ils l'ont joué le 29 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines. Thank you. Et voilà, comme vous avez pu le constater, on peut aussi faire des percussions avec une guitare. C'était Alborada del Gracioso de Maurice Ravel, interprété par le Quatuor Eclis dans la version qu'ils ont transcrite pour quatuor de guitare. C'était le second extrait du concert présenté par Toulouse Guitare le 29 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines. Ce concert est toujours en ligne sur la page Facebook de l'association. Alors n'hésitez pas à aller le regarder en entier, c'est vraiment un très joli moment de musique. Changement de lieu, changement d'ambiance et changement de registre, puisque nous allons revenir maintenant sur le concert de l'Orchestre National du Capitole donné le lendemain de celui de Toulouse Guitare, samedi 30 janvier à la Halle au Grain. Il y avait deux œuvres au programme et deux musiciens invités à cette occasion, un chef d'orchestre et un violoniste. Rappelez-nous qui étaient ces deux invités, Serge, et les œuvres interprétées ce jour-là.
Voilà, alors c'était deux invités déjà connus à Toulouse, hein, notamment le chef d'orchestre qui vient de Singapour, qui s'appelle Kachun Wong, qui a déjà été présent à plusieurs reprises à la tête de l'Orchestre National du Capitole. Et le soliste de la soirée était le jeune violoniste Daniel Lukasiewicz, un violoniste donc qui est né en Suède, qui est né à Stockholm, si je me souviens bien, et donc qui venait pour la troisième fois, bien qu'il ait même pas 20 ans. Il est venu la première fois en 2017 et il a fait ses débuts dans le Poème pour violon et orchestre d'Ernest Chausson. Il est revenu l'année suivante, en 2018, où il a interprété magistralement, vraiment, le concerto pour violon et orchestre numéro 1 de Max Bruch, ce qui n'est pas rien. Et donc, c'est vraiment un musicien qui a déjà sa tradition à Toulouse. Et là, il est donc revenu, plus grand, on voit qu'il a grandi depuis, plus mature, et il était le soliste du deuxième concerto de Mendelssohn, le concerto romantique par excellence.
Concerto pour violon numéro 2 de Mendelssohn qui a précédé l'interprétation de la symphonie numéro 5 de Gustav Mahler. On va en parler dans quelques instants. On va peut-être revenir sur le jeu de Daniel Lozakovic parce qu'on le voit grandir quasiment. On l'a connu, il avait quoi, 15-16 ans.
Oui.
Maintenant, il a même pas 20 ans, il aura 20 ans dans quelques mois, je crois. Ouais. Et ce qu'on voit aussi, c'est que, en prenant évidemment de la taille, du muscle aussi, le son s'est musclé aussi.
Ah oui, ça c'est impressionnant. Les premières mesures, les premières notes dans le concerto de Mendelssohn, et il commence tout de suite, elles frappent par l'intensité d'une sonorité qui ne peine jamais à dominer l'orchestre lorsque le texte le demande, évidemment. Il sait se fondre avec l'orchestre aussi, mais moi, c'est la richesse de cette sonorité et son intensité qui m'a d'abord frappé. Et puis ensuite, il a une sensibilité et puis une palette de dynamique tout à fait impressionnante, hein, du pianissimo extrême jusqu'à un fortissimo tout à fait impressionnant pour un violon. Alors, je voudrais préciser que, comme nous avions, n'est-ce pas, le privilège d'être présents dans la salle lors de cette exécution, on peut dire que ça n'est pas un effet de micro du tout et que vraiment il a une intensité tout à fait impressionnante par rapport à l'ensemble de l'orchestre.
Nous allons écouter un premier extrait du concert du 30 janvier avec cette interprétation du troisième mouvement Allegretto non troppo du concerto pour violon numéro 2 opus 64 de Félix Mendelssohn Bartholdy par Daniel Lozakovic accompagné par l'Orchestre National du Capitole dirigé par Kachun Wong.
Thank you.
Le troisième mouvement Allegretto non troppo du concerto pour violon numéro 2 plus 64 de Félix Mendelssohn, interprété par Daniel Lozakovic, accompagné par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Kachung Wong. Il y avait donc ensuite au programme la monumentale symphonie numéro 5 de Gustav Mahler, qui dure plus de 55 minutes tout de même. Une œuvre très dense, riche en contrastes, plutôt sombre dans l'ensemble, mais avec quelques moments plus apaisés. Alors Serge, comment avez-vous trouvé l'interprétation de l'Orchestre du Capitole et la manière dont l'a dirigé Kachung Wong ?
Bon, c'était tout à fait convaincant. Alors, je voudrais préciser que le chef a une conception très particulière de cette symphonie. Il l'a confiée au cours d'une interview dont la vidéo figure d'ailleurs sur la chaîne YouTube, donc on peut s'y référer. Il considère qu'il s'agit d'une ascension de l'enfer vers le paradis. Voilà tout un programme pour cette œuvre magnifique. Alors, je voudrais aussi préciser que, comme dans le concerto, eh bien, le chef dirige sans partition. Ce qui est quand même une sacrée performance, surtout pour une œuvre comme la cinquième qui est complexe. Alors, j'ai retrouvé à l'occasion la citation du grand Arturo Toscanini qui disait « Il y a deux sortes de chefs d'orchestre, ceux qui ont la partition dans leur tête et ceux qui ont la tête dans leur partition. » Eh bien, apparemment, il fait partie de la première catégorie, Kachung Wong. Et donc, il en a réalisé une belle interprétation avec un orchestre en pleine forme. Alors, orchestre en pleine forme, dont je voudrais quand même dire tout le bien du trompette solo de l'orchestre Hugo Blacher, qui ouvre a découvert tout seul, tout nu, comme il le dit quelquefois, cette ouverture terrible, parce que le moindre accroc serait rédhibitoire.
Et Dieu sait qu'à la trompette, ça peut arriver.
Eh bien oui, mais là, vraiment, alors il a rempli cette fonction d'introduction avec éclat, mais surtout une grande musicalité. Et donc, toute la symphonie s'est déroulée avec ces contrastes que l'on connaît chez Mahler, avec ces oppositions entre musique un peu éthérée par moment, et puis d'une violence, puis dramatique, puisque tout le premier mouvement est une marche funèbre, donc Trauer marche funèbre, puis un mouvement agité qui est indiqué Stürmisch bewegt, c'est-à-dire agitation tempétueuse en quelque sorte, et puis un scherzo, et puis vraiment de belles choses. Je voudrais dire, pour parler aussi des musiciens, dire aussi la qualité exceptionnelle de l'intervention de Jacques Delaplanc, cor solo, dans le scherzo. Le scherzo est en quelque sorte un concerto pour cor et orchestre. Le cor a un rôle prédominant, déterminant dans ce mouvement, et vraiment le soliste là, remplit cette fonction de manière tout à fait impressionnante. C'est vraiment un très très beau moment que ce scherzo, et puis ensuite les deux derniers mouvements qui constituent la troisième partie, puisqu'en fait elle est en cinq mouvements mais trois parties, et donc le début de cette troisième partie, c'est le quatrième mouvement et c'est l'adagietto. Bon, on ne présente presque plus l'adagietto étant donné la célébrité que le cinéma lui a accordé donc dans l'histoire.
D'ailleurs, le titre de ce concert, c'était Mort à Venise.
Mort à Venise, comme par hasard, voilà. Oui. Et puis, j'ai bien apprécié qu'ils le prennent dans le tempo qui est recommandé, tempo très lent, c'est indiqué.
Sehr langsam,
voilà, qui est recommandé par le compositeur. Donc, l'émotion est à son comble dans ce mouvement, évidemment. Et puis, le rondo final, c'est la libération. Comme le dit le chef lui-même, c'est l'arrivée au paradis, en quelque sorte.
Alors, après avoir réfléchi à l'extrait que je pouvais vous diffuser de cette longue cinquième symphonie de Mahler, je me suis dit finalement qu'il serait intéressant d'entendre son fameux adagietto dans une version de l'Orchestre National du Capitole cette fois-ci. Le voici tel que nous avons pu l'entendre à la Halle au Grain le 30 janvier, dirigé par Kachung Wong. Il est toujours un peu difficile d'arrêter cet adagietto de la cinquième de Mahler avant son terme, et pourtant il faut bien. Voilà donc comment les musiciens de l'Orchestre National du Capitole, sous la direction de Kachou Mong, l'ont interprété le 30 janvier à la Halle aux Grains. C'était un beau concert que je vous invite à réécouter, sur la page Facebook ou la chaîne YouTube de l'orchestre. Et dès le samedi suivant, le 6 février, l'Orchestre National du Capitole était de retour à la Halle aux Grains pour un concert également diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Il y avait là encore un chef et un soliste invité, et si l'on connaissait bien le second, on découvrait le premier ce soir-là, Serge.
Ah oui, tout à fait. C'était la première fois qu'il était invité à venir diriger l'Orchestre National du Capitole. Il s'agit du chef d'orchestre britannique, Leo McFall. Retenons son nom parce que vraiment, c'est une personnalité avec une baguette particulière. On va le voir.
On va en parler de sa direction.
Oui, non, mais c'est une direction passionnante. Il a été quand même finaliste du fameux concours Nestlé & Salzburg Festival Young Conductors Award en 2014. Et bon, il réunit des qualités à la fois musicales et expressives qui sont tout à fait impressionnantes.
Il dirige souvent des opéras aussi.
Voilà, il dirige autant le concert que l'opéra, mais il dirige beaucoup d'opéras, effectivement, un peu partout dans le monde, donc, déjà. Donc c'était très bien. Donc
voilà, la découverte.
Lui, c'était la découverte.
Et puis alors l'autre, c'est un fidèle parmi les fidèles. Ah, et puis en plus, il n'est pas de Toulouse, mais bon, on le considère un peu comme étant un des enfants du pays tout de même.
Bah, c'est un régional, il est de Tarbes. Et ceux qui le connaissent auront deviné qu'il s'agit du pianiste David Frey, grand pianiste qui a maintenant vraiment acquis ses lettres de noblesse, qui joue un rôle important dans la jeune génération des pianistes français. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'excellents pianistes français.
Il est
français,
de la génération,
notamment à Toulouse.
Voilà, de Bertrand Chamaillou. Voilà, ils ont un an près, ils ont le même âge.
Ouais.
Et ils sont passés tous les deux par le Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, dont on va reparler en seconde partie de cette émission là, dans quelques minutes, parce qu'ils font un travail extraordinaire, les enseignants du CRR de Toulouse. Voilà, donc on l'a souvent vu avec l'Orchestre National du Capitole, David Frey. On l'a entendu au Jacobin,
soliste, Jacobin. Oui.
Voilà, il a récemment, là, il y a 2 ans, enregistré un CD avec une partie des musiciens de l'Orchestre National du Capitole pour les concertos pour 2, 3 et 4 claviers de Jean-Sébastien Bach. Et là, il nous a interprété Alors, parce que c'est un mozartien aussi. Hein.
Oui, un grand mozartien. Il a interprété le concerto numéro 20 en ré mineur, donc de Mozart. Donc l'unique concerto composé dans cette tonalité et le seul avec le numéro 24 à adopter le mode mineur. C'est quand même une rareté parmi
les... Il n'y en a que deux sur les 27 de Mozart.
Deux sur les 27,
mineur. Oui.
C'est tout à fait impressionnant. Alors, on comprend dès les premières mesures qu'il est en mineur, hein, parce que c'est un concerto vraiment dramatique. Dramatique, fort. Et j'ai beaucoup apprécié que David Frey insiste là-dessus. Hein. Il s'investit dans ce caractère dramatique de l'œuvre dès le début et sans pour autant quand même romantiser le texte musical à l'excès. Hein. On peut aller un peu trop loin dans ce sens. Non, là, il a su garder le bel équilibre entre le classicisme de l'écriture et le caractère dramatique, tragique par moments, de ce que reflète cette œuvre magnifique. Hein.
Alors, il a un très beau son, David Frey.
Belle sonorité.
Alors, certains lui reprochons qu'il a parfois un tempo un peu instable avec l'orchestre. Bon, ça, ce sont des questions très subjectives. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est qu'il avait opté pour la version qu'on a entendue le samedi 6 février pour des cadences très particulières.
Alors, tout à fait incroyable.
Et bien à lui. Il faut que vous nous expliquiez ça parce que vous avez pu en discuter directement avec lui.
Ah oui, parce que je n'ai absolument pas deviné. Ce ne sont pas les cadences habituelles. Alors, la cadence du premier mouvement, le plus souvent, c'est la cadence de Beethoven. Et bien là, il a réuni trois cadences différentes. L'une de Clara Askill, la grande pianiste.
Grande mozartienne aussi.
Grande mozartienne du XXe siècle. Paul Badura-Skoda, un autre très grand mozartien. Et quand même, il a terminé avec la cadence de Beethoven. Donc, c'était une espèce de combinaison, de cocktail tout à fait heureux entre les trois cadences, donc pour le premier mouvement. Et pour le dernier mouvement, alors là, il est allé emprunter tout simplement au grand pianiste du XXe siècle, Edwin Fischer. Et c'est sa cadence qu'il a jouée. Donc. Alors, on sait que Mozart improvisait ses cadences. Mais il ne les écrivait pas toujours. Hein. Ben là, voilà, on a eu l'impression, c'est vrai, il les a joués comme une improvisation et avec beaucoup de passion. Et j'ai trouvé ça vraiment très réjouissant.
Eh bien, nous allons aussi pouvoir entendre David Frey dans cette émission avec cet extrait du concert du 6 février où l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Léo McFaul, l'accompagne dans le troisième mouvement Allegro assez du concerto pour piano numéro 20 en ré mineur de Mozart. C'était David Frey qui interprétait avec l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Léo McFaul, le troisième mouvement Allegro assez du concerto pour piano numéro 20 en ré mineur de Mozart, un extrait du concert du 6 février à l'Allograin, dont la seconde partie était entièrement occupée par une autre grande symphonie romantique, la 9e aussi appelée la Grande de Franz Schubert. Alors Serge, comment Léo McFaul, élu musicien de l'Orchestre du Capitole, nous l'ont-ils servi, cette 9e symphonie, la dernière achevée par Schubert ?
Oui, la dernière achevée, et à laquelle il n'a jamais assisté, il ne l'a jamais entendu de son vivant.
Il n'a jamais joué de son vivant.
Il a fallu attendre que Schumann la fasse interpréter sous la direction de Félix Mendelssohn. C'était vraiment un trio magnifique de grands musiciens. Alors là, vraiment, déjà dans l'accompagnement du concerto de Mozart, on avait admiré la clarté de la polyphonie dans l'orchestre. Eh bien là, on la retrouve aussi. Et contrairement à ce que laissent entendre quelquefois certaines interprétations, il n'y a rien de massif dans sa direction, rien d'insistant tout au long des quatre mouvements. Et il a pris en particulier le premier mouvement dans un tempo plutôt allant et plein d'ardeur.
Oui,
cette introduction qui peut apparaître quelquefois comme une espèce de marche funèbre, hein, cette introduction avec les corps, là c'était allant déjà, animé. Et ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé pour ma part, c'était encore une fois la clarté de la polyphonie. Alors là on entend absolument tout. En particulier, il laisse s'exprimer le contre-champ par rapport au chant. Donc on entendait vraiment les deux et tous les pupitres sont très lisibles. C'est vraiment un cheminement qui est à la fois léger et transparent pour une œuvre qui est quand même consistante et profonde, hein, et par moments très dramatique. Hein. Donc vraiment un grand moment pour les quatre mouvements de cette symphonie avec, il faut féliciter le hautbois solo, hein, Qi Wengcheng, qui a un solo extraordinaire dans l'Andante, hein, qui est un peu comme une évocation du voyage d'hiver pour ma part. Tout à fait incroyable. En plus, un grand moment très dramatique en fond, donc des très belles choses. Avec, au milieu du mouvement, une espèce de suspension du temps, tout s'arrête. Et là, on a le frisson, hein, quand on entend ça. Donc c'était un très beau moment. Et alors, il a abordé l'Allegro Vivace final comme une libération de toute cette énergie accumulée au long des trois mouvements. Donc, à la fois pour le choix des tempi, des phrasés, des échanges entre corps et vent, qui sont toujours très bien menés, on ne s'ennuie pas une seconde. Pas une seconde, malgré ce que disait Robert Schumann, il parlait à propos de cette symphonie de ses divines longueurs. Donc, mais elles sont divines.
Encore faut-il les rendre divines.
Exactement. Et là, c'était vraiment le cas. Donc, vraiment un beau moment.
Voilà, une œuvre difficile qui doit être fatigante pour les musiciens, longue, intense. Mais bon, apparemment, ça s'est très bien passé avec cette direction très élégante aussi. Il est très beau à avoir dirigé.
Absolument, absolument. Donc, j'ai un peu discuté avec lui après. Il était emballé par la prestation de l'orchestre.
Et il veut revenir.
Ah, quand je lui ai dit qu'on aimerait bien le revoir, il a dit « Et moi donc ?»
Ouais, c'est pas impossible, je pense.
Oui, oui.
Voici un second et dernier extrait du concert du 6 février, le début du deuxième mouvement Andante con moto de la symphonie numéro 9, la grande de Franz Schubert, interprété par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Léo McFaul. le deuxième mouvement Andante con moto de la symphonie numéro 9, la grande de Franz Schubert, interprétée par l'Orchestre National du Capitole, dirigée par Léo McFaul lors du concert du 6 février à la Lograin. Concert toujours visible et à réécouter sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'orchestre. Profitez-en, voilà pour les trois récents concerts diffusés sur les réseaux sociaux et sur lesquels nous voulions revenir avec Serge Chosy. Courte pause avant de nous retrouver pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Et dans l'agenda de Mélomanie, pas de concert à venir, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Il va falloir attendre la deuxième semaine de mars pour ça, a priori, si nous ne sommes pas reconfinés d'ici là, bien sûr. Cependant, il y a tout de même une date à noter dans vos agendas, c'est celle du 24 février, où la cérémonie des victoires de la musique classique va être retransmise à partir de 21h sur France 3, en direct de l'Auditorium de Lyon. Et parmi les finalistes 2021, il y a trois Toulousains, trois anciens élèves du Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse qui ont fait leur chemin depuis leurs années de formation dans la ville rose. Et quel chemin! Nous voulions vous les présenter et leur faire un clin d'œil dans cette émission. Alors, s'agissant du premier, le présenter est un grand mot parce qu'il commence à être bien connu, surtout si vous êtes des fidèles de Mélomanie où il est venu à plusieurs reprises. On a encore parlé de lui au début de ce numéro puisqu'il est directeur artistique de la saison Toulouse Guitare. Vous aurez compris que je parle de Thibaut Garcia. Le jeune guitariste avait déjà été récompensé en 2019 où il avait reçu la victoire de la révélation soliste instrumental de l'année. Et bien en 2021, il est nommé dans la catégorie soliste instrumental de l'année, où il est en concurrence, excusez du peu, avec les pianistes Alexandre Tarot et Katia Bugnatijvili. Rien qu'en voyant son nom aux côtés de ces deux-là, on comprend que Thibaut Garcia est désormais entré dans la cour des grands et c'est vraiment mérité, Serge.
Ah, complètement, complètement. Et puis, il faut voir un peu le rôle qu'il joue. Il est non seulement un grand artiste, un grand musicien, mais à voir la manière dont il organise son festival Toulouse Guitare, c'est formidable. Avec une grande variété, on entend du luth, on entend du quatuor de guitare, du duo, la guitare soliste avec chaque fois de grands artistes. Et puis, comme on l'a déjà dit, avec ce coup de pouce donner aux jeunes débutants, donc vraiment...
Il donne un coup de pouce à des musiciens qui sont à peine plus jeunes que lui.
Hein. Exactement, oui, ça c'est vrai. Mais bon, c'est vraiment tout à fait logique qu'il figure parmi ce palmarès des grands musiciens de l'année.
Depuis plusieurs années, on voit qu'il progresse chaque année, il progresse dans son art, évidemment, il se confronte régulièrement à de grands orchestres, il joue avec de grands musiciens, il s'attaque à de grandes œuvres du répertoire. Bon, c'est aussi, vous l'avez dit, c'est un garçon qui est très curieux, c'est un vrai passionné de son instrument. Oui. Il est un chercheur aussi. Et puis, il a enregistré récemment ce magnifique CD avec notre Orchestre National du Capitole. Ce CD Aranjuez, on l'avait reçu pour ça, et c'est aussi c'est une pleine réussite.
La complète, hein. C'est une très belle exécution de ce concerto, pourtant enregistré des dizaines de fois.
Alors, je pense, moi, qu'il n'a pas encore atteint ses limites, hein, Thibaut Garcia, je suis sûr qu'il va encore nous étonner dans les années qui viennent. Voici justement un extrait de ce CD Aranjuez, paru sous le label Erato Warner Classic. On y entend, entre autres, Thibaut Garcia jouer la très belle Rondeña de Sainz de la Massa. Thank you. Rondeña, pièce du guitariste et compositeur espagnol Regino Sainz de la Massa, le dédicataire du concerto de Aranjuez, interprété par l'excellent et très sympathique Thibaut Garcia, qui concourt donc dans la catégorie soliste instrumental de l'année, aux côtés d'Alexandre Tarot et Katia Bouniatichvili, lors de la prochaine cérémonie des Victoires de la musique classique le 24 février. J'ai rappelé tout à l'heure que Thibaut Garcia avait reçu la victoire de la révélation soliste instrumental de l'année en 2019, et dans cette même catégorie, en 2021, un autre Toulousain est nommé parmi les trois finalistes. Il s'appelle Aurélien Gignoux, il est percussionniste. Il faut noter au passage qu'il est rare qu'un percussionniste soit nommé victoire de la musique classique, encore plus qu'un guitariste. Aurélien Gignoux, Serge, nous l'avons vu débuter au Quai Saint-Pierre il y a presque 10 ans.
Mais
il avait
oui.
13-14 ans, c'est un tout jeune adolescent.
Ah oui,
bon,
oui.
Il en a 23 aujourd'hui, mais il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'il a de qui tenir, ce jeune homme.
Ah bah oui, 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 il est le fils de Cécile Robillard, qui est flûtiste, et le petit-fils d'un grand organiste, Louis Robillard. Donc son grand-père a fait une carrière extraordinaire dans le
grand nom de l'orgue en France et même au-delà des frontières françaises.
Oui, oui, oui. Et puis il a d'autres musiciens dans sa famille.
Ouais, hein. Alors c'est extraordinaire, parce que je crois qu'il a 7 ou 8 oncles et tantes, et ce sont tous de grands musiciens. Mais alors, piano, violoncelle, violon... Lui, il est percussionniste. Il a su se démarquer. Hein.
Il n'est pas traditionnel.
Il doit avoir son petit caractère.
Oui, oui,
donc
oui,
sa personnalité, en tout cas.
C'est très bien. Bah, il était déjà percussionniste au cours du concert où nous l'avons.
Ah, je pense que ça l'a toujours passionné, les percussions.
Oui, 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 de ce concert, alors, il y a très longtemps. Donc,
avril 2011.
C'est... 2011, vous vous rendez compte un peu. Donc, et là, oui, oui, il jouait de la percussion. Sa mère jouait aussi de la flûte même soir.
Et son père a aussi joué quelque temps à l'Orchestre National du Capitole.
Ah oui.
Donc
oui.
Voilà, il est entouré de musiciens. Que ce soit ses parents, ses oncles, ses tantes, son grand-père. Il n'y a que des musiciens autour de lui. Il est tombé dans le chaudron quand il était petit, comme on dit. On peut dire aussi qu'il appartient à un trio, le trio KDM. Alors là aussi, c'est original parce que c'est un trio avec deux percussionnistes et un accordéoniste. Il est en dernière année au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il a fait un petit séjour en Allemagne dans une Hochschule.
Hochschule, voilà. C'est une école supérieure, quoi, en quelque sorte.
Je vous propose qu'on écoute maintenant Aurélien Gignoux dans ses œuvres et dans une transcription pour marimba et petite percussion de L'Aidronette, impératrice des pagodes, une des pièces fameuses de Mamerlois de Maurice Ravel. Vous allez voir, c'est bluffant ce qu'il fait, ce garçon. L'Aidronette, impératrice des pagodes, extrait de Mamerlois de Maurice Ravel, une transcription pour marimba et petite percussion, interprétée par le jeune percussionniste toulousain Aurélien Gignoux, finaliste de la catégorie Révélation soliste instrumentale des prochaines victoires de la musique classique. Il aura comme concurrent le pianiste Jean-Paul Gasparian et la violoniste Eva Zavaro. La cérémonie a lieu le 24 février, comme je le rappelais tout à l'heure, mais vous pouvez voter jusqu'au 16 février pour le musicien de votre choix dans la catégorie catégorie révélation. Le vote du public compte en effet pour moitié avec celui du jury dans cette catégorie. Je vous invite chaudement à soutenir Aurélien Gignoux parce que son grand talent le mérite. Il vous suffit pour ça de vous connecter au site web de France Musique où vous sera indiqué la marche à suivre pour participer au vote. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure également, il y a un troisième Toulousain nommé cette année aux Victoires de la musique classique. C'est le plus âgé des trois, mais il n'a que 31 ans. Vous vous rendez compte, Serge?
Oui.
Il est donc encore très jeune, d'autant plus jeune qu'il concourt dans la catégorie du compositeur de l'année. Ce compositeur, c'est Benjamin Attahir, compositeur prophète en son pays, Serge, puisque
mais
plusieurs
oui.
de ses œuvres ont été créées à la Lograin par l'Orchestre National du Capitole.
Oui, en outre, il est aussi violoniste, et donc quatre de ses œuvres, si j'ai bien compté, ont été créées à partir de 2014. En 2014 a été créé son concerto pour hautbois, Nour, N-U-R. D'ailleurs, il a toujours des titres tout à fait incroyables. Nour, il a joué sur la double signification du mot. Alors, Nour, ça signifie seulement en allemand, mais en arabe, ça signifie lumière. Bon, alors...
Seulement la lumière.
On prend ce qu'on veut. Et donc, sous la direction de Tougan Sokiev, a été créé ce concerto qui était dédié à son ami, le hautboïste Olivier Stankiewicz, qui à l'époque était le hautbois solo de l'Orchestre National du Capitole. Ça, c'était en 2014. Et puis, en 2016, a été créée une pièce pour violon et orchestre qui est appelée Nachtspiel, mais là aussi avec un jeu de mots, avec le T entre parenthèses, ce qui signifie que c'est à la fois un postlude et une musique nocturne. Ça a été exécuté et donc dédié à Geneviève Laurenceau, qui à l'époque était
super soliste,
violon solo de l'Orchestre National du Capitole. Alors, c'était une œuvre, comme il l'a qualifié lui-même, un final additionnel au Concertstück de Max Bruch, qui était joué ce soir-là, et l'orchestre était dirigé par Thomas Zondergaard, un chef suédois qu'on a vu plusieurs fois. Très grand chef qu'on a vu plusieurs fois à Toulouse. Et puis ensuite, troisième œuvre, c'était en 2018 qu'elle a été créée, le 23 février, une œuvre alors qui s'appelle Zawatil Zaman, à la mémoire de Pierre Boulez. Il faut dire qu'il a été l'élève de Pierre Boulez.
Le dernier d'ailleurs.
Le dernier élève de Boulez.
Hein.
Et d'autres grands compositeurs comme Alain Louvier, Edith Canat de Chizy, Marc-André d'Albavie, bon, Gérard Pesson.
Oui, donc, il y a eu de bonnes fées qui se sont penchées sur son berceau.
Tout à fait. Et donc cette pièce, à la mémoire de Pierre Boulez, a été dirigée par le chef letton Andris Poga. Et enfin, en 2019, quatrième et dernière œuvre pour l'instant, créée à Toulouse, c'est une commande qui a été passée à Benjamin Attahir par l'orchestre et son chef Tougan Sokiev, et avec le soutien de la fondation portugaise Gulbenkian Musica. Alors avec un titre complètement énigmatique cette fois, c'est je/suis/jus/dit un grain de figue séquence 2. Alors,
on comprend ce qu'on veut là.
On comprend absolument ce qu'on veut, mais vraiment, c'était sur un texte poétique de Lancelot Hamelin, et donc une œuvre tout à fait étrange et magnifique. Il a un langage très personnel, mais actuel.
Un univers très personnel, comme on dit parfois de certains chanteurs. Une musique souvent inspirée par des thèmes mystiques, orientaux.
Oui.
Il est auteur de deux opéras également, Benjamin Attahir. Voilà, il a été lauréat de plusieurs concours internationaux. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore la musique de Benjamin Attahir, voici un extrait d'une de ses œuvres créées il y a quelques années à la Halle au Grain par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tougan Sokiev. Vous l'avez cité, c'était la première, Nour pour hautbois et orchestre.
Thank you.
jour pour hautbois et orchestre, une pièce composée par Benjamin Atayi, interprétée ici par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tougan Sokiev. Benjamin Atayi, le troisième de nos mousquetaires toulousains à être nommé aux prochaines victoires de la musique classique, dont la cérémonie a lieu, je le rappelle, le mercredi 24 février, retransmission en direct sur France 3 à partir de 21h, avec donc Benjamin Atayi nommé dans la catégorie compositeur, Thibaut Garcia dans la catégorie soliste instrumental de l'année, et Aurélien Gignoux dans celle de la révélation instrumentale. Concernant ce dernier, je rappelle aussi que vous pouvez le soutenir et voter pour lui sur le site web de France Musique, www.francemusique.fr. Je rappelle également que les trois concerts sur lesquels nous sommes revenus en première partie d'émission, celui du Quatuor Eclipse et les deux de l'Orchestre National du Capitole, sont toujours disponibles en accès libre et gratuit sur la page Facebook de Toulouse Guitare pour le premier et sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'Orchestre National du Capitole pour les deux autres. Merci une nouvelle fois à Serge Chosy pour son aide ô combien précieuse tout au long de cette émission. La semaine prochaine, nous évoquerons les grands opéras de Mozart en compagnie de Robert Pénavert. Tous mes remerciements aussi à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre fidélité et très bon week-end, très bonne semaine à tous.